Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Elle entrera en vigueur demain lundi, une nouvelle allocation chômage en Algérie. Nous y reviendrons avec Faisal Metaoui, journaliste à 24h Algérie. Nanterre se souvient, 20 ans après la tuerie qui a fait 8 morts, 8 élus et 19 blessés dans l'hôtel de ville, un drame dans la nuit du 26 au 27 mars 2002. Un sommet ce dimanche en Israël avec le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, et ses homologues de pays arabes qui ont normalisé leurs relations avec Israël. 5 enfants palestiniens sont morts dans l'incendie de leur maison, c'est arrivé près de Hébron, dans le sud de la Cisjordanie occupée. La guerre en Ukraine, dans une allocution vidéo diffusée hier soir, le président ukrainien demande de nouveau une assistance militaire aux Occidentaux. Les rebelles houthis ont annoncé hier 3 jours de trêve après leurs attaques contre l'Arabie Saoudite. Le chef de la diplomatie française a rappelé la ferme condamnation par la France des attaques conduites le 25 mars sur le territoire saoudien. Le SIDAction 2022 jusqu'à ce soir minuit, une opération pour récolter des fonds dans la lutte contre le sida. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient ce dimanche à 19h est Abdelkrim Branine. Il publie un premier roman, Le Petit Sultan, aux éditions Zedige. Un roman qui se déroule dans le milieu du football. Extrait dans votre édition. La nouvelle allocation chômage sera versée à partir de demain lundi en Algérie, une allocation de 13 000 dinars par mois. Le nombre des primo-demandeurs d'emploi concernés est de 580 000 personnes. Gros plan sur cette mesure et sur ses différentes modalités, avec Faisal Metaoui, journaliste à 24h Algérie.
C'est la première fois qu'une allocation chômage est versée donc à des primo-demandeurs d'emploi. La mesure va être appliquée à partir du 28 mars et elle sera versé dans les bureaux de poste chaque 28 mars, selon le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Youssef Chorfa. Donc pour bénéficier de cette allocation, dont le montant est à peu près de 13 000 dinars algériens, le primo-demandeur d'emploi doit remplir plusieurs conditions qui ont été détaillées dans un décret qui a été publié il y a quelques jours. Le titulaire doit avoir la nationalité algérienne, réside en Algérie et âgé entre 1 et 40 ans. Il est aussi exigé d'être inscrit comme chômeur demandeur d'emploi auprès des services de l'ANEM, qui est l'Agence nationale de l'emploi, depuis au moins 6 mois, ne pas disposer d'un revenu, quelle que soit sa nature, justifier sa situation vis-à-vis du service militaire, service national en Algérie, et ne pas être inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur et de formation professionnelle. Donc voilà les conditions contenu dans ce décret. Le bénéficiaire ne doit pas avoir déjà bénéficié du dispositif public de soutien à la création et à l'extension d'activités, d'aide et d'insertion professionnelle et d'aide sociale, alors que le conjoint ne doit disposer d'aucun revenu, quelle que soit sa nature. Les détenus ayant purgé leur peine et ne disposant pas de revenus bénéficieront également de cette allocation. Donc voilà un peu ce qui est précisé dans le décret qui a donc détaillé les conditions pour bénéficier de l'allocation de chômage qui sera donc versée à partir du 28 mars.
Et cela concerne près de 600 000 personnes ?
Oui, absolument, 600 000 personnes qui sont inscrites auprès des services de l'ANEM, qui est l'Agence nationale de l'emploi. Donc ça ne concerne pas donc les gens qui ne sont pas inscrits comme demandeurs d'emploi, parce que vous savez qu'en Algérie, il y a un secteur informel qui emploie beaucoup de jeunes. Certains n'ont pas de diplôme, certains ont terminé la formation professionnelle, mais ils ne sont pas inscrits au niveau de l'ANEM. Et donc officiellement, c'est seulement ceux qui sont inscrits au niveau de cette agence qui répertorie les demandeurs d'emploi.
Et ces personnes vont bénéficier de prestations de la sécurité sociale ?
Absolument, parce que c'est un autre problème, parce qu'il y a beaucoup de chômeurs, demandeurs d'emploi, qui n'ont pas de couverture sociale, puisque une fois sortis de l'université pour certains, c'est vrai qu'il y a une couverture sociale au niveau de l'université ou au niveau des centres de formation, mais une fois chômeurs, ils n'ont pas cette couverture. Et aussi, donc, cette allocation chômage permet d'abord de savoir qui sont réellement les primo-demandeurs d'emploi, et également de le permettre d'être couvert sur le plan social, ce qui est une évolution donc, dans le système de sécurité sociale en Algérie.
Cette réforme, c'était une demande de la population, sachant que le chômage touche durement les jeunes en Algérie.
Oui, les jeunes, et surtout les jeunes diplômés. C'est vrai qu'en Algérie, il y a beaucoup de dispositions d'insertion des jeunes à travers les dispositions, par exemple, appelées en sèche, qui donc permet aux entreprises ou aux jeunes d'avoir des microcrédits pour créer des entreprises, mais ce n'est pas suffisant. Il s'agit donc de soutenir ceux qui n'ont pas pu avoir ces crédits ou microcrédits pour créer des entreprises. Et c'était également une des promesses du président Abdelmadjid Tebboune en 2019. Il avait promis donc d'aider les jeunes et de laisser tenir surtout les jeunes chômeurs pour qu'ils puissent vivre dignement. C'est un peu le terme qu'il a utilisé, sur temporaire, en attendant que le jeune trouve un emploi stable et durable. Mais ça aide à alléger un peu les souffrances des jeunes, qui sont assez nombreux, notamment les diplômés sortis des universités, certains avec des masters, d'autres avec des doctorats, d'autres avec des licences, qui n'arrivent pas à trouver des postes d'emploi dans le secteur public ou le secteur privé.
C'est une mesure temporaire, mais c'est une mesure qui sera effective jusqu'à ce que la personne trouve un emploi?
Absolument, ça veut dire qu'une fois la personne trouve un emploi durable et stable, l'allocation ne sera plus versée. Évidemment, lorsqu'il y a des abus, il y aura des poursuites judiciaires, mais les personnes sont répertoriées sur un listing national auprès de l'ANEM. L'ANEM a donc une idée de ceux qui bénéficient et évidemment l'ANEM a aussi l'information par rapport à ceux qui trouvent un emploi. Mais en attendant donc de trouver un emploi, en attendant aussi la reprise économique en Algérie. L'Algérie a beaucoup souffert de la pandémie de Covid-19. Il y a eu beaucoup d'arrêts aussi en 2019 en raison du Hirak, du mouvement de contestation populaire, de la crise. Donc il y a un cumul de plusieurs raisons qui ont fait que la machine économique s'est arrêtée. Donc les possibilités de création de postes d'emploi, notamment dans le secteur privé, ont été faibles. Et donc en attendant qu'il y ait une véritable reprise, cette allocation permettra d'alléger un peu les jeunes chômeurs, si vous voulez, de réduire les disparités sociales.
Et quels sont les secteurs qui recrutent aujourd'hui en Algérie?
C'est surtout dans le secteur du bâtiment, parce que le bâtiment est en train de reprendre doucement, le secteur des travaux publics, le secteur des services, notamment le secteur touristique, puisqu'il y a maintenant une relance du secteur, notamment dans le sud du pays, et le secteur de la petite et moyenne entreprise, surtout pour les industries alimentaires. Donc c'est un peu ces secteurs, évidemment, il y a des recrutements au niveau de l'État, surtout dans le secteur pétrolier et gazier dans le sud, et aussi dans les secteurs qui relèvent de la fonction publique, même si à ce niveau-là, les recrutements sont assez faibles, notamment dans le secteur, par exemple, des douanes, de la police ou de l'administration publique.
Vous évoquiez les difficultés économiques liées à la crise sanitaire internationale. Il existe bien entendu une crainte aujourd'hui avec cette guerre en Ukraine.
Oui, il y a des craintes, bien évidemment. Il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. Des côtés négatifs, c'est l'incertitude qui est là sur les marchés, notamment l'Algérie est un grand pays consommateur et importateur de blé, notamment de la Russie et aussi de l'Ukraine. Il y a aussi un renchérissement des prix des céréales sur le marché mondial. Donc il y a des retombées directes sur la consommation. En Algérie, on consomme beaucoup de pâtes, notamment le pain. Il est vrai que l'État soutient une partie du pain pour les couches les plus défavorisées. Il y a un côté positif, puisqu'il y a une augmentation des prix du gaz et du pétrole, et l'Algérie peut bénéficier de cette manne pétrolière pour justement redresser la barre, puisque il y a eu un déficit budgétaire de plusieurs années, et ça permettra aussi une meilleure redistribution sur le plan social, puisqu'il y a beaucoup de demandes, en attendant une amélioration effectivement du climat général, économique au niveau mondial, au niveau national, puisqu'il y a beaucoup maintenant, à l'approche du mois sacré du Ramadan, il y a beaucoup d'inquiétudes sur les pouvoirs d'achat, la hausse des prix des produits, par exemple, frais comme les légumes et les fruits, mais également les légumes secs, parce que les légumes secs sont, une partie des légumes secs sont apportés de l'extérieur. Vous savez qu'il y a une augmentation des prix du transport maritime. Et donc tout ça a effectivement des effets négatifs sur l'économie algérienne et également sur la consommation.
Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie. Nanterre se souvient 20 ans après la tuerie qui a fait 8 morts, 8 élus et 19 blessés dans l'hôtel de ville. Un drame dans la nuit du 26 au 27 mars 2002. Une cérémonie s'est déroulée cet après-midi sur le parvis de l'hôtel de ville de Nanterre. Un cérémonial visant à honorer la mémoire des victimes de Richard Durne, placé en garde à vue. Il était passé aux aveux avant de se suicider dès le lendemain, le 28 mars 2002. Un sommet ce dimanche en Israël avec le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken et ses homologues de pays arabes qui ont normalisé leurs relations avec Israël. Une réunion ce dimanche après-midi avec ses homologues d'Israël, des Émirats arabes unis, du Maroc, du Bahreïn et d'Égypte. La seconde et dernière phase des élections municipales palestiniennes s'est tenue hier en Cisjordanie occupée. Un scrutin notamment boycotté par le Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza. Le taux de participation a été, selon la commission électorale, de 52,8%. Les dernières municipales, déjà boycottées par le Hamas, avaient eu lieu en 2017. aucune élection législative ou présidentielle n'a été organisée dans les territoires palestiniens depuis 15 ans. 5 enfants palestiniens sont morts dans l'incendie de leur maison. C'est arrivé près de Hébron, dans le sud de la Cisjordanie occupée. Les 5 enfants tués étaient âgés de 5 à 14 ans. Ils sont décédés hier matin après l'incendie survenu dans la nuit de vendredi à samedi. Les rebelles houthis ont annoncé hier 3 jours de trêve après leurs attaques contre l'Arabie Saoudite. Les rebelles ont mené 16 attaques dans le sud et à Jeddah dans l'ouest, visant différentes infrastructures, dont une centrale électrique, une station d'eau et des installations pétrolières. Des attaques menées avec des missiles et des drones lancés depuis les villes de Sanaa aux mains des insurgés et de Hodeïda, également en zone rebelle. Attaques que les États-Unis ont qualifiées d'inacceptables. Le chef de la diplomatie française a rappelé la ferme condamnation par la France des attaques conduites le 25 mars par les Houthis sur le territoire saoudien. Jean-Yves Le Drian apporte son soutien aux initiatives en vue d'une solution politique globale et inclusive au conflit yéménite, selon les mots d'un communiqué du Quai d'Orsay. Les États-Unis s'attendent à ce que les talibans reviennent sur leur décision d'exclure les filles des écoles en Afghanistan dans les prochains jours. Déclaration hier de l'émissaire américain pour l'Afghanistan. En attendant cet hypothétique revirement des fondamentalistes, les États-Unis ont annoncé vendredi dernier annuler des discussions à Doha, au Qatar, avec les talibans. La guerre en Ukraine. Dans une vidéo diffusée hier soir, le président ukrainien a de nouveau demandé une assistance militaire aux Occidentaux. Volodymyr Zelensky demande 1% des avions et des chars de l'OTAN pour pouvoir se défendre face à l'attaque russe. De son côté, le président américain a mis en garde le Kremlin en lui demandant de ne même pas penser à avancer d'un centimètre en territoire de l'OTAN. Joe Biden, qui a qualifié hier, depuis la Pologne, son homologue russe Vladimir Poutine de boucher. Emmanuel Macron a mis en garde aujourd'hui contre une escalade des mots et des actions en Ukraine après les propos du président américain. Emmanuel Macron qui a souligné qu'il n'utiliserait pas les termes employés par Joe Biden. Un homme de 32 ans est mort des suites d'une blessure par balle après le tir d'un policier à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Il était au volant d'un véhicule volé quand il a été arrêté par la brigade anticriminalité. Alors qu'il tentait de fuir, un des policiers aurait fait feu dans des circonstances encore imprécises. Une enquête de la police des policiers diligentée. Le maire de Sevran a réagi dans un communiqué hier soir. Il adresse ses premières pensées à la famille de la victime et annonce avoir convoqué une cellule de crise en mairie. Le site d'action se poursuit jusqu'à ce soir minuit, une levée de fonds destinée à financer la recherche sur le sida, mais aussi à aider les associations qui s'occupent des malades et des personnes séropositives. Ce site d'action, ce sont 3 jours de collecte, de mobilisation et d'information sur la lutte contre le virus du sida. Il est possible de soutenir l'association par téléphone en appelant le 110, un numéro gratuit, ou par internet sur sidaction.org. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient, ce dimanche à 19h, est Abdelkrim Branine. Il publie un premier roman, Le Petit Sultan, aux éditions Zellige, un roman qui se déroule dans le milieu du football, extrait de cette émission.
Le Petit Sultan, alors ça vient d'une chanson, une chanson d'un groupe qui s'appelle Dire Straits. La chanson s'appelle Sentence of Swing et c'est une chanson que le jeune Ugarten écoute par le biais de son entraîneur lors des déplacements avec son équipe de football et petit à petit, c'est comme ça qu'on l'appelle, Sultans of Swing. Donc ça devient le sultan et le petit sultan, parce que c'est Ugarten. Les auditeurs l'ont compris, c'est un petit prodige du football, quoi.
Alors Ugarten, effectivement, est un petit prodige du football. Vous nous racontez très bien le milieu du football que vous connaissez bien. Vous nous parlez des recruteurs qui sillonnent la banlieue parisienne à la recherche du futur Mbappé. Comment le petit sultan, puisque c'est son surnom, se retrouve-t-il à Clairefontaine, qui est l'ENA des footballeurs?
C'est exactement ça. L'ENA des footballeurs, c'est une expression que j'aime bien. Donc, il a déménagé en Seine-Saint-Denis. Il est de la classe moyenne, mais il se fait vite repérer parce que, en effet, aujourd'hui, on le sait, les spécialistes du football le racontent, l'Île-de-France est tout simplement le secteur le plus précieux en matière de football à l'échelle européenne et peut-être même à l'échelle mondiale. On a des recruteurs qui viennent du monde entier, notamment d'Europe, des plus grands clubs européens qui sillonnent l'Île-de-France et notamment la Seine-Saint-Denis, un vivier très important étant donné la jeunesse de la population. On sait aussi que les responsables de Clairefontaine ont toujours un œil avisé sur les petites pépites qui pourraient sortir de la Seine-Saint-Denis. Donc il est repéré comme ça. Un cadre de Clairefontaine lui propose de tenter le concours de l'INF, l'Institut National du Football de Clairefontaine, l'ENA des footballeurs. C'est pas du tout dans ses projets, c'est même pas dans les projets de ses parents. On sait qu'on a des parents qui appartiennent à des milieux modestes qui rêvent. Ça peut être normal que leur enfant devienne une star du football, parce que évidemment sur le plan financier, c'est plus confortable pour eux. Et lui, pas du tout. Donc il faut un petit peu le forcer pour qu'il arrive finalement à tenter ce concours. Je précise, c'est vrai qu'en toile de fond, c'est le football, mais ce n'est pas un livre sur le football, même si les amateurs de football seront très intéressés par ce livre.
Mais on peut aimer votre roman sans aimer le football.
Exactement. Il n'y a pas besoin d'aimer le football pour dire Le Petit Sultan. Et c'est un roman politique, évidemment, mais vous vous rendez compte, nos quartiers font rayonner la France à travers le football dans le monde entier, et pourtant, lorsqu'on se balade dans ces mêmes quartiers, il ressemble, alors c'est dur ce que je vais dire, mais quelque part c'est vrai, il ressemble à, on dirait, le tiers-monde.
Abdelkrim Branine, il publie un premier roman, Le Petit Sultan, aux éditions Élige. Il est l'invité de la bibliothèque de Radio Orient à 19h, émission présentée par Loïc Barrière. Fin de cette édition, un grand merci pour votre fidélité et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.